Ce chant nous parle du brigand sur la croix. Je ne sais pas si on réalise que pour cet homme-là, il a fallu qu'il aille sur une croix pour rencontrer Seigneur. Je ne sais pas si un homme que Dieu voulait certainement gagner, et pour Dieu, le moyen qui a été utilisé pour cet homme, il n'y avait pas d'autre solution, c'était de le laisser aller jusque sur une croix, pour qu'il puisse rencontrer le Seigneur Jésus, qu'il puisse lui parler, et cet homme-là s'est converti. D'autres, à la simple écoute des paroles du Seigneur, se sont laissés convaincre. Et le Seigneur, il connaît nos cœurs à chacun. C'est un peu comme si, d'une manière inconsciente, il connaissait celui qui vraiment avait soif de le rencontrer, mais qui, d'un autre côté, avait endurci son cœur. Un peu comme un coffre-fort et on a oublié le code. Seigneur, viens m'aider à casser le coffre pour que je puisse vraiment t'ouvrir mon cœur. Il y a des fois des situations comme ça. J'ai connu des personnes qui me confiaient qu'elles voulaient bien croire, mais qu'elles n'y arrivaient pas. Comme si elles avaient besoin que le Seigneur les aide à comprendre. Les aide à ouvrir leur cœur, parce qu'ils en avaient peut-être la volonté, mais ils savaient pas comment faire, ils savaient pas comment s'y prendre. Et plus notre cœur est résistant, et plus pour casser le coffre, entre guillemets, il va falloir s'y prendre fort. Si vous voulez détruire une boîte en papier, comment vous faites? Alors, soit vous mettez un coup de poing dessus, vous l'écrasez, soit vous mettez le feu, mais ça dure pas longtemps. Si la boîte elle est en bois, comment vous faites? Ben vous pouvez mettre le feu, mais ça va durer un petit peu plus longtemps. Si votre coffre-fort il est en métal forgé, pour casser le coffre, ça va être encore un peu plus dur. Et là, on y voit une image aussi de toute la patience que Dieu peut avoir. Je ne sais pas si vous avez regardé, je ne fais que le citer, on ne les lit pas, mais dans le livre du Deutéronome, c'est un truc qui m'a toujours frappé. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 28, il y a des bénédictions et des malédictions. Et bizarrement, longtemps, quand je regardais ce chapitre, je me dis, mais c'est pas juste, c'est plus un dieu de malédiction qu'un dieu de bénédiction. Et je comprenais pas pourquoi il y avait plus longtemps de malédiction que de bénédiction. J'ai fait le compte tout à l'heure, il y a 14 versets pour les bénédictions, pour les malédictions, il y a 4 fois plus. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ça nous montre justement toute la patience de Dieu, qui va ajuster son action à l'état de notre cœur. S'il n'y a pas besoin de crier, il ne va pas crier le Seigneur. Il va toujours s'adapter à l'état de notre cœur. Seulement, ma prière, c'est que ce soir, on puisse chacun avoir un cœur qui ne soit pas trop endurci, parce que malheureusement, si certains vont crier de tout leur cœur au secours, Dieu peut venir à leur secours, mais c'est malheureux de se rendre compte, de réaliser qu'il nous aura fallu passer par des moments d'épreuve, des moments difficiles, parce que c'était le seul moyen pour le Seigneur, quelque part, de nous interpeller. J'aimerais qu'on lise un passage. J'avais à cœur de parler du péché ce soir, et le péché, il nous amène à nous endurcir. Quand je pratique le péché, je m'endurcis. Et la boîte de mon cœur, le coffre-fort de mon cœur, eh bien, à chaque fois que je suis dans la pratique du péché, je m'endurcis. Et c'est toujours plus dur d'entendre la voix du Seigneur qui va me parler. Ça va être toujours plus dur. Pour Dieu, rien n'est impossible. Mais pour m'atteindre, si je m'endurcis, eh bien, il va falloir que Dieu s'y prenne d'une manière peut-être un peu plus forte. Et je crois que cet après-midi, ce soir, si on entend sa voix, n'endurcissons pas notre cœur, ne résistons pas à l'appel du Seigneur, parce que ce que le Seigneur désire, c'est qu'on puisse se tourner vers lui et qu'il n'y ait pas forcément besoin d'employer de la manière forte, et ce n'est pas son désir. Mais bon, dans la grâce de Dieu, on sait que quel que soit notre cœur, il pourra nous trouver. On pourrait d'ailleurs commencer par ces textes dans l'évangile de Luc, au chapitre 21 et au verset 19, il y a un texte qui pourrait être mal compris si on ne l'expliquait pas. Luc chapitre 21, verset 19, Jésus dit, Par votre persévérance, vous sauvegarderez vos âmes. Vous sauverez vos âmes. Alors, on est sauvé juste par la persévérance? La persévérance en quoi? C'est la persévérance qui sauve? Non, ce n'est pas la persévérance qui sauve. Si je prends ce texte tout seul, je fais dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Un autre texte pour nous mettre sur la voie se trouve dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1er, verset 4. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi dans toutes vos persécutions et les afflictions que vous supportez. Dernier texte, dans 3 Jean, au verset 2, on a cette même idée sur la persévérance. Ici, c'est encore une salutation, mais c'est aussi un souhait de l'apôtre qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. » L'apôtre Jean désire que la personne à qui il destine cette lettre prospère. Et il y a une idée de persévérance aussi dans la prospérité. Et ici, il n'est pas question de persévérer dans des œuvres méritoires, il n'est pas question de persévérer dans la venue à la réunion. Il est question de persévérer dans la foi en l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort sur la croix du calvaire pour nous sauver. Il a donné sa vie et seul ce sacrifice est suffisant pour qu'on puisse être pardonné de tous nos péchés. Néanmoins, nous sommes dans un corps qui peut nous amener à tomber, qui peut nous amener à pécher. Et ici, la persévérance dont il est question, c'est une persévérance qu'il nous faut avoir par rapport au péché. Parce que celui qui lave sa robe régulièrement est celui qui sera sauvé. Il nous faut faire attention. C'est pas parce qu'un jour on s'est repenti qu'on a demandé pardon. Si on retourne dans la pratique du péché, eh bien, on va salir notre robe. Et derrière, on court un grave danger parce qu'on ne fait plus attention à ce qu'on peut faire. On peut se lier au péché. Le péché, on en trouve quelque part une description dans Galates au chapitre 5. Au verset 19, il est écrit « Les œuvres de la chair sont évidentes. » Rien que ça, ça nous montre à quel point nous sommes amenés à montrer d'une manière naturelle des choses mauvaises. Et c'est évident. Un homme, une femme, s'il ne change pas, s'il ne connaît pas l'intervention divine dans sa vie, eh bien, il ne pourra que de manière évidente montrer des choses mauvaises. Et ici, on a une liste qui n'est pas exhaustive, mais qui est quand même importante. Je vous lis dans une autre version. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien, ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Peut-être que dans ta vie, une vie immorale, c'est une vie qui ne suit pas la moralité. Elle est immorale, c'est l'inverse d'une vie morale, justement. Qu'est-ce qu'une vie morale? C'est une vie qui suit, justement, ce qui est défini par rapport au bien, par rapport au mal, par rapport à la justice de Dieu. En d'autres termes, par rapport à nos relations entre les hommes et les femmes, une vie morale sera une vie qui suit, par exemple, les liens du mariage. Un homme, une femme ne peut pas vivre ensemble et vivre comme étant marié sans être marié. Ça, c'est immoral, selon la parole de Dieu. Quelqu'un qui vit comme ça, sans se marier, sans avoir reçu l'acte administratif de monsieur le maire qui dit, ben voilà, vous êtes marié par la loi, celui qui ne se soumet pas à la loi du pays, il est dans l'immoralité. Et si je vis comme étant marié à quelqu'un sans être passé devant monsieur le maire pour attester mon mariage, je suis dans l'immoralité. Mariage coutumier, mariage... Tout ça, ça passe derrière. peut imaginer qu'on se marie comme ça entre nous. Ouais, mais avec la famille, les amis, ça se passe comme ça. Mais on vit en France. On est soumis à la loi du pays dans lequel nous nous trouvons et il nous faut nous soumettre à la loi du pays. Si je vis comme étant marié sans être marié, eh bien je suis dans l'immoralité parce que je ne suis pas passé devant l'autorité qui établit le mariage dans mon pays. C'est des choses simples, mais c'est ce que la Bible dit. On voit d'autres choses. Ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent de faux dieux, ils pratiquent la sorcellerie, ils détestent les autres. Tiens, ils détestent les autres. Peut-être est-ce l'occasion de réfléchir simplement sur ce que je suis, comment je regarde celui que je côtoie jour après jour, comment je regarde peut-être mon frère ou ma sœur, mes parents, comment je regarde mes collègues de travail, est-ce que quand je les regarde, je vois des personnes insupportables que je déteste, ou est-ce que finalement il y a autre chose? Est-ce que je suis dans une situation où je vais chercher à me disputer? C'est juste après. Ils se disputent, ils sont jaloux. Qu'est-ce qui nous amène à ces choses? Ce sont les envies, ce sont tout un tas de choses qui peuvent faire que dans ma vie, je vais être amené sans cesse à envier celui que mon voisin, mon frère, mon cousin, je ne sais, va avoir que moi je n'ai pas. Alors moi je vais être jaloux, je vais commencer à générer des divisions, des disputes, parce que j'ai de l'envie à l'intérieur. Tout ça, ce sont des choses que le péché qui est en nous fait, et ça se développe comme une mauvaise herbe. Ça pousse, au début c'est pas peut-être important, mais au fur et à mesure, si on n'arrache pas la mauvaise herbe, elle prend racine et ça va être de plus en plus difficile de l'enlever. C'est la même image, quelque part, que le coffre que je vous ai dit tout à l'heure. Plus on laisse le péché se développer en nous, et plus le fait de le régler, même en étant pardonné de Dieu sur la terre, il va y avoir des choses à régler. C'est pas le tout de se dire « le Seigneur m'a pardonné de mon péché », mais le jour où on s'approche de Dieu, qu'on lui demande pardon pour nos péchés, s'il y a quelque chose à réparer, la logique va être de réparer ce qu'on peut réparer devant Dieu. Si je vis sans être marié et qu'à un moment donné je comprends l'œuvre du Seigneur pour moi, j'arrive à comprendre qu'il m'aime et qu'il me fait ouvrir les yeux sur ma situation, eh bien, je vais réfléchir et je vais commencer à me dire, mais il va falloir que je règle ma vie dorénavant, si je veux plaire à celui qui a donné sa vie pour moi. Parce que si je ne le fais pas, je méprise ce qu'il a fait pour moi. Le péché, on voit, c'est quelque chose qui se développe en nous, qui prend racine, et puis si je tombe dans la pratique, c'est quelque chose vraiment qui va me lier. On peut continuer la liste. Ils se mettent en colère. Ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. C'est comme ça qu'on peut avoir des divisions de personnes. C'est comme ça qu'on a des disputes. C'est comme ça qu'il y a de la colère. Certains peuvent se dire « Ah, mais moi, c'est dans mon caractère, c'est dans ma nature, c'est comme ça. Quand ça va pas, eh bien, je me mets en colère et puis j'y peux rien. » La parole de Dieu nous montre bien que la colère, même si il y a peut-être une partie de la colère qui n'est pas un péché, parce que dans la parole de Dieu, il y a aussi un texte qui dit « si tu te mets en colère, ne pêche pas ». Donc quelque part, il y a une colère qui peut monter, mais attention, attention, parce que si à un moment donné, je laisse exprimer ma colère, je suis très très proche d'une frontière là qui va m'amener à faire des choses mauvaises. C'est en étant en colère qu'on devient violent. C'est en étant en colère qu'on dit des choses qu'on regrette après. C'est en étant en colère qu'on va pouvoir peut-être même faire des choses qu'on va regretter après. Parce qu'on laisse accès au diable quand on se met en colère. Le diable, il sait très bien se servir de nous quand nous sommes en colère. Aussi, la Bible nous encourage à veiller à ces choses, à ne pas nous mettre en colère. Le fait de se mettre en colère pour rien, c'est un péché. Parce que, justement, je vais ouvrir une porte qui va m'amener à pécher. C'est un péché en devenir, on va dire. Et le Seigneur, il nous met en garde contre toutes ces choses. Il y en a qui boivent trop, qui mangent trop. Alors, est-ce qu'on peut, jusqu'où on peut aller quand on boit? C'est toujours la même chose. L'ivrognerie, ça fait partie de choses qui sont réprouvées par la parole de Dieu, parce que quand je bois trop, que je me rends ivrogne, quelque part, je suis dans la pratique, quelque part, j'abîme mon corps avec l'alcool que j'ingère jour après jour, et derrière, je crée une dépendance, un lien qui fait que même pour mon entourage, je deviens quelqu'un de dangereux. Je suis dangereux pour moi-même, et je suis dangereux pour les autres. Dieu nous a fait, il nous a créé, il nous a donné un corps, et nous, en étant dans la pratique de l'alcool, du tabac, que sais-je, on abîme le corps que Dieu nous a fait. Et quelque part, c'est quelque chose qui est dommage. C'est pas que dommage, c'est quelque chose qui montre à quel point on peut tomber dans une pratique que Dieu réprouve. Les œuvres de la chair. Ce sont les choses évidentes qu'on peut pratiquer, et peut-être à la lumière de cette petite courte description que je viens de faire, eh bien, ça vous interpelle, et peut-être vous vous dites, ben voilà, par rapport à ce qui vient d'être dit, moi je suis dans tel cas, je suis dans tel cas, je suis dans tel cas, cela prouve quoi? Cela prouve qu'à l'intérieur, il y a une racine qui s'appelle le péché. Ce que je viens de décrire, ce ne sont que les fleurs, les fruits de la graine qui est à l'intérieur. Le problème, c'est pas, à la limite, c'est pas les fruits. Si vous coupez les fruits, eh bien, ça repousse. Ce qu'il faut régler, c'est le problème de la graine qui est à l'intérieur. Et pour régler ce problème de la graine qui est à l'intérieur, il faut un cœur nouveau. Hélas, quand on doit arracher certaines mauvaises herbes, on doit bêcher tout autour et on doit enlever toute la terre qui va avec pour être sûr de l'avoir enlevée. Et là, c'est la même chose. C'est la même chose. Le péché, il est ainsi en nous et il ne va pas y avoir le choix. Il va falloir demander une action en profondeur. Et il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et peut-être que dans votre cœur, vous réalisez que oui, vous êtes dans cet état. Et la Bible dit qu'on ne peut pas être dans cet état et être aussi dans la bénédiction. Ce n'est pas possible. Les deux sont incompatibles. Si dans mon cœur, je cultive le péché, je suis dans la malédiction. Et Dieu, dans sa patience, va peut-être pouvoir user de différentes manières pour m'interpeller. Ce sera plus ou moins fort selon l'état dans lequel je suis. Et ça, c'est la grâce de Dieu qui peut, quel que soit mon état, m'interpeller. Mais si je reste à cultiver ces choses, si je reste à cultiver de mauvaises choses, je risque d'en souffrir. Le péché, on en souffre toujours. La Bible dit qu'à la fin, il y a un salaire. C'est la mort. Il y a un salaire, il y a quelque chose. Si je cultive le péché, je vais en récolter les fruits, et les fruits ne sont pas bons. Et Dieu ne veut pas qu'on puisse ainsi être dans cette situation. Dieu, il désire du bien pour nous, il désire nous faire du bien, il désire nous sortir de cette situation, il désire qu'on puisse se retrouver plutôt dans les bénédictions. Il veut nous bénir, son regard sur nous n'a jamais changé, mais il ne pourra jamais nous forcer. Il ne pourra jamais nous forcer. Dans la Bible, il est écrit, on l'a chanté, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si, quand j'entends la parole de Dieu, je n'écoute pas, eh bien, je résiste et j'endurcis mon cœur. Et quelque part, pour pouvoir avoir accès, il va falloir taper plus fort la prochaine fois. Je dis pas qu'il va vous arriver quelque chose de grave, mais je dis que, malheureusement, quand on s'endurcit, on va avoir besoin, pour entendre la voix de Dieu, c'est comme si on se mettait quelque chose sur les oreilles et on se rajoutait des couches et des couches, à la fin, si on se rajoute trop, on n'entend plus rien de l'extérieur. Et pour qu'une personne puisse se faire entendre de nous, il va falloir que la personne crie. C'est ainsi que Dieu agit vis-à-vis de certaines personnes, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, parce qu'elles se sont endurcies. Je prie pour que ce soir, peut-être, il y en ait parmi nous qui réalisent qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu. Dieu veut vous faire grâce. Dieu vous tend la main. Dieu nous a tous tendu la main. Il nous a tendu ses deux mains en mourant sur une croix. Ses deux bras étaient bien ouverts, comme pour nous montrer qu'il nous accueillait aussi. Le Seigneur Jésus est venu. Il a marché parmi nous. Il a vécu la souffrance. Et pourquoi il a vécu ça? Parce que Dieu est malheureux. Il est malheureux de nous voir ainsi nous faire du mal. Dans le livre de Jérémie, il y a ce texte, je vous le cite, Jérémie chapitre 9, verset 1, où Dieu parle et il dit « Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. » Ici, on a une image de Dieu qui pleure sur notre situation parce que nous sommes loin de lui. Dieu, ça ne le réjouit pas de nous voir ainsi empêtrés dans la boue du péché. Il est dit aussi dans Jérémie, chapitre 13, verset 17, « Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes, parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. » Nous sommes captifs quand nous sommes dans le péché, quand nous sommes dans la pratique du péché. Nous sommes liés, nous sommes en prison. Et le Seigneur, c'est pas ce qu'il désire. C'est pour ça que son Fils a été sur cette croix. C'est pour ça qu'il est venu marcher parmi nous. Lui qui était sans péché, il était totalement libre. Il a marché parmi nous, il a subi l'humiliation, il a subi la honte. Tout ça parce qu'il nous aimait. Quand Jésus a fait alliance avec ses disciples, il a instauré ce qu'on appelle la scène. Et quand il a commencé à partager ce moment avec ses disciples, il a commencé par une annonce. Il a dit, en vérité, l'un de vous me livrera. Et cette déclaration a eu l'effet d'une bombe parmi les disciples. Parce que personne ne savait qui était concerné. Et ils étaient tous en train de se dire, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Personne ne savait. Jésus n'avait pas dévoilé qui c'était. Le but était quoi? Le but était que chacun réfléchisse sur qui il était. Que chacun s'examine intérieurement pour pouvoir vérifier si oui ou non il était un disciple du Seigneur. Est-ce que oui ou non, est-ce que je suis quelqu'un qui vient à l'église et qui dit « Seigneur, je veux te suivre » et qui dans la vie de tous les jours est une autre personne? Ou est-ce que c'est quelqu'un pour qui l'engagement qui est pris à l'église est un engagement qui a aussi lieu en dehors? C'est là toute la question. Si tu t'examines d'une manière intérieure, à quelle conclusion arrives-tu? Le Seigneur, il est mort pour toi. Il est mort pour tes péchés. Et il veut te tendre la main encore une fois. Et il est prêt à te pardonner. Mais il faut dans ton cœur demander à Dieu du secours. Il te faut implorer son secours, parce que tu ne pourras pas continuer à marcher, à clocher des deux pieds, en pratiquant le péché d'un côté, et en venant à l'église et à implorer le secours de Dieu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre ainsi. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir des projets pour Dieu d'un côté, et de l'autre côté, vivre des choses que Dieu réprouve. Ce n'est pas possible. Ou alors c'est du mensonge. Le Seigneur voudrait que tu puisses ouvrir les yeux sur ta situation et il voudrait que tu puisses réfléchir pour que tout à nouveau, tu puisses te réengager d'une manière totale, d'une manière honnête pour lui, avec un cœur pur, comme le dit David, « Renouvelle en moi un esprit bien disposé, lave-moi et je serai pur. » Et c'est cette prière qui monte de ton cœur que tu vas pouvoir faire monter vers Dieu. Et c'est cette prière-là qui te permettra de sortir peut-être de cette spirale infernale dans laquelle tu es. Christ a tout accompli sur la croix du calvaire. Et il a méprisé la honte. Il a méprisé tout ce qui pouvait l'avilir. Il l'a méprisé. On le lit ça dans le livre des Hébreux. On peut le lire ensemble. C'est au chapitre 12. C'est écrit. Le péché, c'est ce qui nous fait honte. Quand Adam et Ève ont péché, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils avaient honte. Et il y a toujours cette association. Peut-être des fois, on se dit, Seigneur, j'ai honte de ce que je fais. Et Jésus a connu ça. Mais il l'a méprisé. Hébreux, chapitre 12, au verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Le Seigneur a été humilié au plus haut point, je dirais. Ici, dans ce texte que nous venons de lire, il est question du péché qui nous enveloppe si facilement. Selon les versions, c'est d'autres termes qui sont utilisés pour nous parler du péché. Il y a plusieurs termes. Le péché est celui-là même qui nous enveloppe. Quelque chose qui nous enveloppe, c'est comme une seconde peau. Mais avant de nous envelopper, on a plusieurs termes selon les versions. On a le péché qui nous colle à la peau, comme le tissu collant là, qui est sur votre doigt. Vous avez beau secouer la main, il reste accroché. Il y a cette image, le péché qui nous colle à la peau. Le péché qui nous cerne de tous côtés. Comme Jérémie quand il est dans la fosse, j'ai cité Jérémie tout à l'heure, Jérémie quand il est dans la fosse, il s'enfonce dans la boue, et s'il regarde tout autour de lui, il n'y a que la boue. Le seul moyen de sortir de sa fosse, c'est de regarder ce qui se passe, et en regardant vers le ciel. Et là encore, si tu es dans cette fosse, si tu te sens comme pris dans les liens du péché, comme de la boue qui te fait couler, qui t'enfonce, tu t'enfonces dans cette boue-là, tu peux regarder au ciel, tu peux regarder à Dieu, tu peux lui implorer du secours. Et le Seigneur, tout comme Jérémie ici, va implorer Dieu de tout son cœur, et Dieu va pouvoir lui envoyer de l'aide. Il va y avoir un homme, Ebed-Lémec, je crois que c'est ça, Mélec, je ne sais plus, qui va envoyer des cordes et qui vont secourir Jérémie. Le Seigneur n'a pas d'autre but que de se sortir de ta situation, parce qu'il sait et il pleure sur le fait que tu peux être malheureux, malheureuse. Et c'est pas son désir de te voir dans cet état. Il voudrait tellement te faire du bien, si seulement tu voulais, de tout ton cœur, régler ta situation. Le péché, peut-être qu'il t'enlace aussi. Peut-être que c'est quelque chose qui fait que tu n'as pas fait attention. Tu t'es laissé embarquer dans une affaire que tu regrettes aujourd'hui. T'as pas fait gaffe. T'as pas fait attention à ce qui était en train de se passer, et tu t'es retrouvé pris dans un engrenage. Et tu sais plus comment t'en sortir. Et tu t'es retrouvé ainsi enlacé, pris dans une situation que tu regrettes. Le Seigneur peut te délivrer de ça. Le Seigneur peut te sortir de là. Quelle que soit la situation, le Seigneur est capable. Il est capable de te sortir de là, quelle que soit ta situation. Et j'aimerais que tu puisses réaliser ce soir à quel point Dieu il t'aime dans ta situation. Oui, il n'aime pas le péché, mais toi, il veut te sortir de là. Et le cœur peut-être qui est là, il veut te le changer. On pourrait lire ensemble ce texte dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5. Au verset 17, il est dit ceci: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Le Seigneur est capable de changer ton cœur. Quand bien même tu te dirais « c'est impossible, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a encore ça », le Seigneur est capable de te changer. Et tu pourrais être toi-même étonné de ce que tu deviendras. Le Seigneur ne désire rien d'autre que de te faire du bien, que de te sortir de cette situation. C'est pour la raison pour laquelle j'avais introduit sur cette notion de persévérance, parce que quand on a été sauvé, quand on a été tiré de là, il nous faut faire attention à ce que la moindre tache ne soit pas là sur nos robes. À ce qu'on puisse demeurer dans cette situation où la robe est blanche. Et j'aimerais que tu puisses comprendre encore, peut-être ce soir, peut-être plusieurs fois tu as demandé pardon et plusieurs fois tu as ressombré. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous a dit qu'il nous fallait pardonner autant de fois que nécessaire. Il nous faut pardonner à notre frère, à notre sœur, autant de fois que nécessaire. Pourquoi il dit ça? Parce que ça, c'est exprimer la nature de Dieu. Dieu est prêt à te pardonner encore. Il est prêt à te tendre, il te tend déjà sa main. Si seulement tu voulais la prendre. J'aimerais qu'on se recueille quelques instants. Jérémie, alors qu'il vit une autre situation, il était prisonnier, et à un moment donné, alors que le peuple part en captivité, quelqu'un vient le voir et lui enlève, il arrive avec la clé et lui ouvre ses cadenas et lui dit « Maintenant, voici que je t'affranchis des chaînes que tu as aux mains. » Puisse cette situation qu'a vécue le prophète être une situation qui soit, entre guillemets, l'ombre de quelque chose que vous pourrez vivre ce soir. Le Seigneur désire t'affranchir des liens que tu peux avoir par rapport au péché. Il désire te faire du bien, il désire te libérer, il désire te faire grâce, il désire te sortir de la fosse dans laquelle tu t'es peut-être mis. Il désire te sortir de la situation dans laquelle tu t'es empêtré, tu ne sais plus comment t'en sortir. Le Seigneur a une solution. Il a une solution. Et il n'a pas d'autre désir que de te faire du bien, de te sortir de là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir, dans son cœur? On répond dans notre cœur à cette question. Je ne vais même pas demander que vous leviez la main. Mais répondons au Seigneur, dans notre cœur. Est-ce que tu désires sortir de ta fosse? Est-ce que tu désires sortir de cette situation dans laquelle tu es? Est-ce que tu réalises dans quoi tu t'es mis? Le Seigneur veut tellement te faire du bien. Et il veut te bénir. Il veut, comme on l'a chanté, il veut t'annoncer la paix, la joie, l'amour. Il veut que ce soit ton quotidien, ces choses. Mais aujourd'hui, tu ne le vis pas. Peut-être que dans ton cœur, c'est le moment d'appeler à Dieu au secours. De crier dans ton cœur, dans le secret de ton cœur. Peut-être est-ce le moment ce soir de ne pas t'endurcir une fois de plus, mais au contraire, de demander au Seigneur sa grâce, de l'implorer. Je vais prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as entendu ce message que j'ai donné, cet avertissement. Et je veux te prier, Seigneur, pour les personnes qui sont dans cette situation. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour que, oui, la paix puisse être faite avec toi. Que tu puisses trouver un accès à ces coffres forts qui sont peut-être endurcis avec le temps, avec la pratique du péché. Seigneur, je te prie, Seigneur, toi seul sais comment faire. Toi seul sais comment nous atteindre. Et je te prie pour que si quelqu'un crier à toi sans savoir comment tu pourrais t'y prendre dans l'endurcissement qu'il est. Seigneur, toi tu sais comment délivrer chacun d'entre nous. Tu sais comment intervenir dans chacune de nos vies. Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui crient à toi maintenant. Qu'ils puissent avoir cette révélation. Que tu puisses parler à leur cœur et les amener à changer de comportement. Les amener à te demander pardon. Pour que tu puisses leur faire du bien. Seigneur, tu n'as pas d'autre désir que de nous faire du bien, de mettre ta main sur nous pour nous faire du bien. Ta main puissante qui nous fait du bien, qui nous prodigue du bien, qui est toujours là pour nous entourer, nous faire grâce, nous donner la paix. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que personne ne reparte sans avoir réglé ces choses. Merci, Seigneur, parce que une fois encore, tu nous tends la main. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta grâce. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.